Bien, jusqu'à présent, nous avons vu les responsabilités et les privilèges du croyant, du membre de l'Église locale et de l'importance que cela revêt dans le plan de Dieu. Et sincèrement, quand on considère et qu'on regarde aux Écritures, il est indéniable, indéniable que la vie du croyant est liée à l'Église. Moi, je trouve cela à la fois triste, mais aussi aberrant, quand je lis ou j'entends quelque part de chrétiens qui se disent, on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin de ça, on peut vivre tout seul notre foi, etc. Et quand on regarde à la place que revêt l'Église dans les Écritures, je suis désolé, mais ces personnes-là sont entièrement dans l'erreur. Non seulement le chrétien a sa place, mais également des responsabilités et des privilèges. Et la liberté que nous avons en Christ, que nous avions vue la dernière fois, hein, cette liberté, elle est extraordinaire et elle nous permet d'être ici, présents et de pouvoir justement participer au corps de Christ, à l'Église locale, et d'avoir chacun pour notre part, avec eh bien, les capacités, les dons que Dieu accorde de pouvoir eh bien, agir et œuvrer au sein de l'Église locale. L'Église, que fait-elle? On a déjà vu hein, la mission de l'Église et bah, la mission du chrétien, elle est étroitement liée à l'Église. Donc on revoit les mêmes choses, mais l'Église, elle est là pour adorer Dieu, pour servir Dieu et pour exemplifier Dieu. C'est-à-dire lui ressembler, pour montrer qui est Dieu, pour être un témoignage vivant et vibrant de la réalité, de l'existence de Dieu, hein, de son action et de son œuvre dans la vie de personnes eh bien, aussi diverses que celles que nous voyons même ce matin. Dieu agit et l'Église est là pour montrer cela. Elle est là pour également apporter l'enseignement nécessaire, l'encouragement, l'exhortation, mais aussi la discipline parfois, hein, pour que le croyant puisse être modelé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est dans l'Église que nous sommes, bien quelque part, mis aussi au défi de progresser, n'est-ce pas? Il est question pour nous hein, de marcher de progrès en progrès. Il est question pour nous eh bien, d'arriver à la stature parfaite du Seigneur et de l'imiter en tout point. De progresser donc dans la sainteté, dans la pratique de cet amour agapé, hein, cet amour que nous voyons dans les Écritures, un amour qui est inconditionnel, un amour qui va même jusqu'au sacrifice. Mais cet amour est nécessaire aussi dans l'Église pour préserver l'unité dans l'Église, n'est-ce pas? L'Église, elle est là aussi pour nous aider à progresser dans la pratique de la justice, de manifester la grâce, la miséricorde, le pardon, mais aussi l'entraide. Et c'est par l'Église donc que nous proclamons également l'Évangile de Jésus-Christ. Donc la grande question pour nous tous qui sommes appelés à faire partie de ce corps, à faire partie de l'Église locale, la grande question c'est par quels moyens pouvons-nous accomplir toutes ces tâches, toutes ces responsabilités qui sont données aux chrétiens à travers l'Église? Dieu nous a appelés et avec l'appel qu'il a accordé, il a donné aussi tous les moyens nécessaires pour accomplir cela, pour accomplir son œuvre, pour accomplir sa volonté. Il nous a équipés pour son service. Alors les moyens spirituels d'accomplir les responsabilités du chrétien dans l'Église, eh bien la première chose que nous allons voir dans les Écritures, c'est tout d'abord eh bien dans Exode chapitre 19 et verset 6, vous allez dire, mais qu'est-ce que Exode a à voir avec l'Église? C'est juste pour montrer qu'il y a déjà un précédent qui existait. Hein, Exode chapitre 19 et verset 6, quand l'Éternel parle à Israël, il leur dit, vous serez pour moi un royaume de quoi? De sacrificateurs. Et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Hein, Exode 19, 6. Maintenant, avancé de plusieurs siècles, allez dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 9. 1 Pierre chapitre 2 et verset 9 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors il y a ici un enseignement important et primordial pour tout croyant. Et c'est un principe auquel nous sommes entièrement attachés. C'est ce qu'on appelle la prêtrise du croyant, le sacerdoce du croyant. C'est un principe doctrinal qui est attaché aux églises dites baptistes. Dès les origines des églises baptistes, c'était un des principes auxquels ils étaient entièrement attachés. C'est que tout croyant, toute personne née de nouveau, qui a placé sa foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, toute personne ainsi est devant Dieu un sacrificateur. C'est ce que Pierre dit. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et il y a deux choses ici. Il y a le terme sacerdoce, donc qui est lié donc au service des sacrificateurs, et royal, c'est aussi le fait que, une fois que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous avons été adoptés, nous faisons partie d'une famille royale. Et donc, pour le chrétien, cette prêtrise, il faut bien le comprendre, n'est possible que parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a tout accompli pour que nous puissions nous approcher de Dieu sans crainte, que nous puissions nous approcher de lui dans la prière. Alors, bien sûr, Paul, et on l'a lu dans nos lectures de 1 Timothée, Paul, il nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ homme. On est entièrement d'accord avec cela, et on va voir expliquer les choses un peu plus loin. Mais voilà, l'épître aux Hébreux nous apporte un enseignement remarquable sur ce principe. Il y a deux versets. Le verset 16 du chapitre 4, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et plus loin au chapitre 10 et au verset 22, qui dit exactement plus ou moins la même chose « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » L'idée de pouvoir nous approcher de Dieu n'est possible que parce que Christ a accompli sur la croix tout ce qui devait être accompli pour faire de nous des sacrificateurs. Et parce que Christ, justement, est le seul médiateur entre les êtres humains et Dieu, chaque croyant, par Jésus-Christ, possède le privilège, mais aussi ce devoir d'accéder directement à Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu, mais aussi nous devons nous approcher de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de l'immense privilège que cela est pour nous de pouvoir nous approcher de Dieu ainsi. Ceux qui ont suivi le programme de lecture biblique, vous avez pu constater dans l'Ancien Testament tout le protocole de préparation, de sanctification des Lévites pour pouvoir servir l'Éternel, n'est-ce pas ? Vous avez pu vous rendre compte aussi qu'il y avait certes un accès à l'Éternel, mais un accès qui était très limité, n'est-ce pas ? Ceux qui pouvaient entrer dans le lieu très saint, il y avait de grandes conditions qui étaient apportées à cela. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu de n'importe quelle manière. Mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous indique que par Jésus-Christ, donc, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. L'une des applications de cela, c'est que cette liberté que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu nous rend capables d'intercéder les uns pour les autres. Alors, l'intercession, c'est une prière, on va dire, appuyée en faveur des autres. L'intercession, c'est pas pour nous-mêmes. L'intercession, c'est par principe pour les autres. Lorsque nous prions pour la santé d'un tel, lorsque nous prions pour les épreuves de foi que certains traversent, nous prions pour les autres. Ça, c'est l'intercession. Mais voilà, avant de continuer toutes ces applications qui découlent de ces passages, nous devons nous assurer de bien comprendre ce que c'est qu'un prêtre et quelles sont ses fonctions, n'est-ce pas? Il n'y a pas ici. Il ne faut pas bien sûr confondre dans l'Église catholique, hein, il y a des prêtres. Ce n'est pas cela hein, dont il est question ici. Mais la prêtrise, tout d'abord, nous la trouvons dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le devoir fondamental d'un prêtre était quoi? C'était de représenter les personnes du peuple vis-à-vis de Dieu. Hein, ils agissaient comme une sorte d'intermédiaire pour parler à Dieu au nom de personnes qui, à cause de leur péché, étaient indignes de comparaître devant l'Éternel. Et par conséquent, la première responsabilité d'un prêtre, c'était d'obtenir le pardon de ceux qu'il représentait. Toujours dans cet épître aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 1 à 3 nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Hein, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, voilà, le prêtre, il avait cette fonction de pouvoir représenter les gens du peuple qui venaient pour apporter des sacrifices pour que leurs péchés puissent être effacés. Mais voilà, il nous montre aussi les limites de ce système-là en nous rappelant que les sacrificateurs, c'était des êtres humains, pécheurs, comme le reste du peuple. Et qui eux-mêmes avaient besoin, eh bien, d'être sanctifiés, d'avoir ce pardon des péchés pour pouvoir effectuer cette fonction pour le peuple. Et donc, pour obtenir ce pardon, le prêtre offrait un sacrifice qui satisfaisait hein, la justice de Dieu, qui expiait, qui effaçait la culpabilité du pécheur. Et une fois que cette culpabilité a été réglée, le prêtre pouvait à ce moment-là, apporter d'autres types de sacrifices, des offrandes qui représentaient la dévotion, la reconnaissance, hein, l'action de grâce, mais aussi la louange. Donc la notion ici de ce sacri des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'est une notion que nous retrouvons aussi pour nous, c'est que les sacrificateurs, les Lévites, ils avaient été mis à part par l'Éternel, n'est-ce pas, pour cette fonction spécifique. Et donc la notion de mise à part, de consécration, est indéniablement liée à cette fonction. Et dans l'Ancien Testament, donc, Dieu avait ordonné un sacerdoce distinct pour remplir ses fonctions au nom des enfants d'Israël. Donc on avait les fils d'Aaron, hein, qui avaient été appelés à exercer ces fonctions de prêtre pour toute la nation. Mais même si les croyants individuels dans l'Ancien Testament pouvaient jouir et jouissaient effectivement d'une communion personnelle avec Dieu. David était-il prêtre? Non. Pourtant, on lit les psaumes et qu'est-ce que l'on voit? On voit une relation exceptionnelle avec l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y avait des sacrificateurs et que le reste du peuple devait passer par les sacrificateurs pour apporter les sacrifices pour les péchés, etc., que le peuple n'avait pas de communion avec Dieu. On n'est pas en train de parler de cela. On est en train de parler d'un accès à Dieu en matière de sacrifice, en matière aussi d'intercession, comme nous le rappelle l'auteur de l'épître aux Hébreux. Ce sacerdoce que nous voyons dans l'Ancien Testament, on le sait, puisque Dieu a apporté une nouvelle alliance, ce sacerdoce, il ne pouvait pas entièrement satisfaire la justice de Dieu, n'est-ce pas? Les sacrifices qui étaient apportés étaient des sacrifices imparfaits. Les sacrificateurs qui apportaient ces sacrifices étaient eux-mêmes imparfaits. Et puisque donc ces prêtres et ces sacrifices étaient imparfaits, limités, ni l'un ni l'autre ne pouvaient accomplir l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Cette œuvre qui éradique complètement le péché, la culpabilité. Hein, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation, n'est-ce pas? Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle cela. Il nous rappelle l'imperfection, pas forcément du système, mais l'imperfection des êtres humains. Et la nécessité d'un sacrificateur parfait, et la nécessité d'un sacrifice parfait. Et donc, l'Épître aux Hébreux, entre autres choses, décrit cette œuvre sacerdotale de Christ de manière riche en détails. Si vous regardez dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, on va prendre le temps de lire ces versets, parce que ça nous aidera à bien comprendre ces choses. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1er, nous dit « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible, impossible, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi, eh bien, la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est du lourd. Mais c'est tellement limpide le fait que le sacrifice de Christ, il est unique, il est parfait, et il est le seul qui a pu, par son sacrifice, nous représenter en tant que sacrificateur, parce qu'il est homme, mais par sa mort sur la croix, la vie qu'il a accordée en tant que Dieu, une vie sainte, sans péché, il était le seul à pouvoir accomplir ce sacrifice ultime, parfait, et il n'y a plus besoin d'autres sacrifices pour le péché, n'est-ce pas? Uniquement le sacerdoce de Christ nous permet maintenant à nous d'accomplir une fonction de prêtre. Parce que ici, selon ce chapitre 10, le système d'autrefois, de l'ancienne alliance, le système sacerdotal qui existait, n'était qu'une ombre ou une image du sacrifice que Dieu fournirait un jour. Une ombre, une image. Alors, une ombre, si je vois l'ombre de quelqu'un, je peux distinguer une silhouette, mais je ne peux pas forcément dire de qui il s'agit. Ou une image même. On a une image, mais une image, ce n'est pas forcément non plus... quelque chose qui est réel, mais voilà, qui annonce. Le système que l'on a dans l'Ancien Testament était là pour annoncer, préparer l'œuvre que Christ allait accomplir à Golgotha. Même les croyants de l'Ancien Testament, en regardant de manière plus profonde aux Écritures, auraient pu se rendre compte que, voilà, ces sacrifices que j'apporte tous les ans. Mais c'est chaque fois, je dois recommencer. À chaque fois, je dois recommencer. Et ils auraient pu se rendre compte quelque part que, mais comment est-ce que je vais avoir la victoire sur le péché? Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment être pardonné par Dieu si, voilà, constamment, je dois, chaque année, retourner pour le pardon de mes péchés? Les gens pardonnés ne supporteraient plus même la conscience de leurs propres péchés. Et le fait que les sacrifices qui étaient offerts année après année auraient dû rappeler aux gens que leurs péchés ne pouvaient être pardonnés par ce système sacrificiel. Ils ne pouvaient pas enlever, effacer. Ça couvrait. Hein, c'est comme si, voilà, on balayait en pis, on mettait sous le tapis, là. On a l'impression que c'est enlevé, mais c'est encore là. Mais le sacrifice apporté par Christ n'a pas juste couvert simplement, il a effacé, enlevé, éradiqué la condamnation du péché. Or, la raison pour laquelle ces sacrifices d'autrefois ne pouvaient pas supprimer le péché, déjà, je l'ai mentionné, des sacrificateurs imparfaits, des animaux qui étaient sacrifiés, qui finalement, eux n'avaient pas de pouvoir. Hein, leur sang à eux n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Dieu nous montre que dans cette ancienne alliance, il n'était pas possible que par le sacrifice des animaux, eh bien, le sang efface entièrement le péché. Au verset 4, nous voyons qu'il n'était pas possible donc, que les péchés soient effacés. Verset 6, hein, que Dieu ne prenait même aucun plaisir à de tels sacrifices et holocaustes. Cependant, contrairement à ces animaux offerts autrefois, lorsque Jésus-Christ, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, en tant qu'être humain, il a pu apporter ce sacrifice parfait. Christ, il est venu à la fois comme prêtre et comme sacrifice. Et personne d'autre n'a pu et ne pourra accomplir cela. Si vous regardez au verset 10, hein, Hébreux 10, 10, il nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors ce une fois pour toutes est extraordinaire. Une fois pour toutes. Il n'y a même plus besoin pour nous de revenir sur nos péchés passés parce que Christ a effacé une fois pour toutes tout péché qui nous condamnerait. Les péchés même passés, présents et même futurs. Le sacrifice de Christ est parfait. L'implication ici, elle est claire. Les sacrifices d'animaux étaient offerts à plusieurs reprises parce qu'ils ne pouvaient pas sanctifier, parce qu'ils ne pouvaient pas amener cette pureté, cette sanctification dans la vie de la personne. Mais en Christ, Christ qui a sacrifié son propre corps, eh bien, il a amené les pécheurs à la sainteté une fois pour toutes. Par le salut en Jésus-Christ, la personne qui a placé sa foi en Christ, il est déclaré saint parce que Jésus-Christ est saint, parce que son sacrifice est saint. Et ce sacrifice nous est appliqué. Et donc Dieu nous déclare saints au moment de notre nouvelle naissance, au moment où nous acceptons cette grâce de Dieu et que nous obtenons ce salut éternel, nous sommes déclarés saints. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits dès le départ, n'est-ce pas? Ça, on s'en rend bien compte. Hein? Mais maintenant que nous sommes déclarés saints, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de cette sainteté. On en parlera un peu plus tard. Mais le Messie, donc, a offert un seul sacrifice pour tous les péchés, pour toujours. Hein? Le verset 12 nous rappelle cela. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est-à-dire que ce pour toujours, c'est pas simplement le fait que Christ il est assis à la droite de Dieu pour toujours, c'est-à-dire que ce qu'il a accompli, c'est valable pour toujours. Une validité que ben, les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient pas. Puisque chaque année, le peuple devait revenir au temple, apporter les sacrifices. Le Messie donc a offert ce sacrifice unique pour nos péchés, pour toujours, hein, car par une seule offrande, verset 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et cette perfection dont il est question ici, ce n'est pas que nous, nous sommes parfaits. C'est que Christ, lui, est parfait. Et il nous appelle à cette perfection. Il nous appelle à lui ressembler. Et c'est pour ça que nous voulons nous efforcer de connaître la volonté de Dieu et de l'appliquer dans notre vie. Et que par nos progrès spirituels en Jésus-Christ, eh bien, cette perfection, elle fait son œuvre dans notre vie. On le sait que ce n'est que dans la présence de Christ que nous serons entièrement parfait, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas laisser Dieu nous modeler à l'image de son Fils et à rechercher cette perfection dans notre vie, parce que cette perfection-là, celle de Christ, c'est celle que Dieu recherche et veut pour nous. Alors on le sait que pour être sauvé, il a fallu ce sacrifice, il a fallu un prêtre pour apporter ce sacrifice. Hein, lorsque Christ, sur la croix, lorsqu'il a offert son propre corps en sacrifice pour nos péchés, Christ, dans sa perfection, en tant qu'homme, en tant que Dieu, eh bien, il a apporté un sacrifice parfait qui a entièrement satisfait à la justice et aux exigences de Dieu. Et c'est là que Christ s'est écrié « Tout est accompli ». Tout est accompli. L'œuvre de rédemption est accomplie. Elle a été accomplie dès le moment où Christ a donné sa vie sur la croix. Notre salut, il a été accompli à ce moment-là. Ah, certes, moi je peux dire, oui, c'était en février de 1984, hein, lors d'une retraite dans l'est de la France, que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai reconnu comme sauveur, Seigneur de ma vie. Mais ça, cet événement-là qui s'est produit il y a beaucoup d'années maintenant, Christ l'a accompli sur la croix à Golgotha. Il a accompli cette œuvre nécessaire pour que chaque croyant eh bien, puisse obtenir eh bien, ce pardon total pour ses péchés. Tout est accompli. Et puisque tout est accompli, y a-t-il besoin pour nous aujourd'hui d'apporter des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés? Non, il n'y en a plus besoin. Et je partageais avec les ados hier justement à ce sujet, par rapport au fait que historiquement, et c'est extraordinaire, on ne peut voir que la main de Dieu là-dedans, que en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains fondent sur Rome, hein, Tite vient et ils rasent le temple. Et depuis ce moment-là, il n'a pas été possible pour le peuple d'Israël d'apporter quelconque sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Pourquoi? Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus besoin d'apporter de sacrifice. Aucun sacerdoce ou sacrifice ne sera jamais nécessaire pour le salut parce que Christ a tout accompli. Et la beauté et la majesté de ce que Christ a accompli, si on revient dans... Retourne dans Ésaïe chapitre 43 et verset 25, il dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alors permettez-moi déjà une petite application pratique. Si Dieu a pardonné mes péchés, pourquoi est-ce que je me laisserai laminer, torpiller, assailli par ces paroles qui nous disent « Ah, mais regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. Regarde tous ces péchés que tu as déjà fait. » Ça, c'est la voix de l'adversaire qui est là pour nous laminer, nous rendre inutiles. Tout a été accompli. Et Dieu a dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Permettez-moi une deuxième parenthèse ici. Si vous êtes déjà engagé à témoigner à des personnes de foi musulmane, ils vont vous poser la question hein, par rapport à Jésus-Christ. Quand Christ il dit « Personne ne connaît l'heure du retour, si ce n'est le Père », et que lui-même, Christ, ne connaissait pas le jour et l'heure de son retour, ils disent « Comment est-ce qu'il peut être Dieu s'il ne sait pas ça? Dieu n'est-il pas omniscient ?» Eh bien, je vous invite à souligner ce verset dans votre Bible pour que la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça, regardez ce qui est dit ici, dans l'Ancien Testament. Comment le Dieu omniscient peut dire « Je ne me souviendrai plus » ? Il est tout puissant, il peut effacer nos transgressions, effacer nos péchés, enlever la condamnation et même ne plus se rappeler de nos péchés. Bon, revenons ici un peu plus au thème de notre message ce matin. Mais cette prêtrise en Jésus-Christ, donc, nous donne accès au Dieu trois fois saint. Quand Christ, en tant que souverain sacrificateur, a offert ce sacrifice une fois pour toutes pour les péchés, eh bien, il nous a permis de nous approcher avec confiance de l'Éternel. Nous devons éprouver une grande confiance envers Dieu. Et là, dans ce chapitre 10, l'auteur va même jusqu'à donner cette image du temple de l'ancienne alliance. Plus loin dans les versets 19 à 21, nous lisons « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Rappelez-vous, au moment de la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple ? Le voile qui s'est rompu. Et on avait là déjà une image que il n'y a plus rien qui maintenant nous empêche de pouvoir accéder au Dieu trois fois saint. Christ, par son sacrifice, eh bien, il nous permet donc de nous approcher de Dieu avec entière confiance. On peut même entrer avec audace dans le sanctuaire. C'était un privilège qui, dans l'ancienne alliance, était réservé uniquement aux grands sacrificateurs, aux grands prêtres, et qui pouvaient entrer dans ce lieu seulement pendant le jour des expiations. Et l'implication pour nous, c'est que chaque croyant, désormais, exerce les plus hauts privilèges de la prêtrise. Parce que parmi les lévites, parmi les prêtres, il y en avait qui faisaient des fonctions simples. Et il y avait ceux qui pouvaient entrer dans le tabernacle ou dans le temple, entrer dans la présence de l'Éternel. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes tous prêtres et nous pouvons tous exercer cette fonction la plus élevée que de pouvoir nous approcher et d'entrer dans la présence de l'Éternel. Sommes-nous donc déjà conscients de cette image, de ce privilège immense? Mais est-ce que nous employons ce tel privilège? S'approcher de Dieu, comme nous l'avons lu, nous devons le faire avec un cœur sincère, avec une pleine assurance, et de placer notre confiance entièrement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mes mérites qui m'ont permis de pouvoir m'approcher de l'Éternel, ce sont ceux de Jésus-Christ. Et donc, moi, je sais, je suis imparfait, je sais que je suis faillible, et donc je sais que je peux faire quelque chose de travers, je sais que je peux me tromper. Mais ce n'est pas sur la base de ce que je suis ou qui je suis, c'est sur la base de qui Jésus-Christ est, de ce qu'il a accompli, qui nous permet d'entrer dans la présence de l'Éternel avec confiance. Et donc nous avons ce privilège déjà de pouvoir l'adorer directement, de le remercier directement, de lui adresser directement nos besoins. Dites-vous bien que personne n'a un plus grand accès à Dieu et personne n'a une position plus élevée devant Dieu que le chrétien le plus ordinaire. C'est pour ça que Dieu, il voit ses enfants, il voit son Église, et il peut dire, ici, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et tous, pourquoi? Parce que nous sommes tous maintenant à ce même niveau. Nous sommes tous entrés par Jésus-Christ dans cette fonction de prêtrise. Et on n'est pas plus important l'un que l'autre vis-à-vis de Dieu. Abel peut autant s'approcher de l'Éternel que moi-même. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ce droit d'accès à Dieu, a donc également des implications sur les relations que nous devons entretenir les uns avec les autres au sein de l'Église locale. Puisque chacun a cet accès direct à Dieu, nous devons nous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous regardez à ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux et au verset 24, c'est ce que l'auteur précisément nous dit. Il nous dit, bon, lisons le verset 23 avec, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, et dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Puisque nous connaissons en Christ la vie éternelle, que nous avons cet accès direct au Père, nous avons tous cette fonction de prêtre devant lui, eh bien, nous sommes amenés à agir en tant que prêtres les uns pour les autres, de nous exciter à l'amour, et aux bonnes œuvres, et de nous exhorter, de nous encourager, d'intercéder les uns pour les autres. Hein, ce ministère de la prière d'intercession, je crois c'est quelque chose de merveilleux que nous possédons, de pouvoir justement nous approcher du Père et de prier pour quelqu'un d'autre. Chaque fois que les chrétiens intercèdent pour quelqu'un d'autre, eh bien, ils vont représenter cette personne devant Dieu. Tout comme le prêtre d'autrefois représentait les gens du peuple, eh bien, voilà, chrétien, un tel va s'approcher de Dieu dans la prière pour cet autre frère, cette autre sœur, et intercéder en sa faveur. Et il fait fonction de prêtre devant Dieu. L'intercession, c'est un aspect vital. Un aspect vital du sacerdoce que nous avons en Jésus-Christ. Un aspect vital de ce qu'est la vie d'Église. Or, bien sûr, le fait d'être prêtre, le fait que chaque croyant est considéré par Dieu comme un prêtre, ça implique, oui, des responsabilités, ça implique un immense privilège, de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui distingue les chrétiens bibliques des autres. Les autres religions où on va avoir un système hiérarchique, n'est-ce pas? Où on va avoir un pape qui est au-dessus de tous les autres. On va avoir des clergés qui vont être en place et qui vont se mettre au-dessus des autres. Mais comme nous l'avons vu, en Christ, nous sommes tous prêtres devant lui. En Christ, nous sommes tous égaux dans nos fonctions, égaux dans la manière dont Dieu nous regarde, égaux dans l'amour qu'il a pour nous, égaux dans la miséricorde, dans la grâce qu'il nous a accordée. Il n'y a pas de personne plus élevée, on va dire, dans l'Église. Celui qui administre l'Église, qui va gérer, n'est pas plus grand. La différence, c'est des fonctions qui sont différentes, peut-être des responsabilités qui sont différentes, mais en ce qui concerne cette prêtrise, ma prière n'a pas forcément plus de valeur que la vôtre. C'est pas parce que voilà, j'ai cette fonction de berger, d'enseigner, que ma prière a là une puissance plus extraordinaire que la vôtre. Parce que la puissance de la prière, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Christ. Celle de Christ qui agit comme médiateur, celle de Christ qui agit aussi comme avocat, c'est pas ma prière, c'est Christ. Tout vient, centre, dirige vers Christ à chaque fois. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ces fonctions nous apportent? Je veux dire, bon, de manière un peu plus pratique. Un baptême. Montrez-moi un passage qui dise que c'est le pasteur qui doit administrer le baptême. Il n'y a rien qui dit cela. Mais parce que, voilà, chacun dans l'Église a une fonction de prêtre devant Dieu, le baptême peut être administré par un autre frère dans l'Église que le pasteur. Ou même pour la commémoration du repas du Seigneur, ça peut être un autre frère dans l'Église qui va s'occuper de présenter cela au Seigneur, à l'Église. Il n'y a rien qui dise, voilà, c'est le pasteur qui doit tout faire dans l'Église. Hein, rappelez-vous que c'est un corps, hein, avec des membres distincts. Il n'y a pas besoin forcément non plus d'être consacré au ministère pour pouvoir apporter la parole. On a des exemples un peu partout en France où nous avons des églises avec des frères qui n'ont pas forcément suivi une formation dans un institut biblique, mais qui ont été instruits, enseignés par un pasteur, par un missionnaire pendant des années, qui sont peut-être diacres dans l'église, hein, et que, voilà, par la force des choses, c'est eux qui doivent s'occuper de l'église. Et ils le font pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que voilà, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas reçu de formation ou ils n'ont pas été consacrés, on n'a pas imposé les mains sur eux pour dire « on te choisit, on te consacre pour faire ce ministère-là ». Bien au contraire. Alors, quels sont ces sacrifices qu'aujourd'hui, en tant que prêtre devant Dieu, nous pouvons apporter? Quels sont ces sacrifices du Nouveau Testament? Il y a toutes sortes de sacrifices. Déjà, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que les sacrifices pour l'expiation des péchés, il y avait aussi des sacrifices qui étaient apportés pour la gloire de Dieu, pour le remercier, hein, pour le louer. Déjà, parmi les sacrifices que nous pouvons apporter en tant que croyants, en tant que chrétiens, je l'ai déjà répété plusieurs fois, Romains chapitre 12, verset 1er, c'est offrir nos corps en sacrifice vivant. C'est-à-dire que je vais utiliser, employer mon corps pour la gloire de Dieu. Pas pour satisfaire mes propres envies et désirs, mais je veux l'employer pour la gloire de Dieu. Que tout ce que je vais faire, je décide de le faire pour la gloire de Dieu avec mon corps. Un autre sacrifice que nous pouvons également ajouter à cette liste, dans Philippiens chapitre 2 et verset 17, Paul il écrit « Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. » C'est un sacrifice aussi que certains croyants vont apporter pour consacrer à un ministère dans l'Église, que ce soit à plein temps ou à mi-temps, hein, de pouvoir servir, de sacrifier du temps de sa vie, de sacrifier même parfois de leur propre confort pour servir dans l'Église. Paul, nous le voyons, hein, il était prêt même à être martyrisé, hein, et si sa mort pouvait contribuer à accroître la foi des croyants, hein, et il comparait même la perspective de la mort à une libation, hein, qui serait versée, hein, lors du culte divin. Et donc, se donner pour les autres, se donner, hein, pour aider les autres à grandir. Paul était prêt à faire ce sacrifice. L'apôtre Paul parle également dans Romains chapitre 15, les versets 15 et 16, il parle également du partage de l'évangile comme un service sacerdotal. Il dit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. » Et donc, oui, le partage de l'évangile, ça fait partie de ce à quoi nous sommes appelés à faire. En tant que prêtre devant l'Éternel, en tant que croyant, je crois que si une des plus hautes fonctions que nous pouvons apporter, hein, en tant que chrétien, c'est celui de partager l'évangile. D'être un des outils, un des instruments que Dieu emploie pour qu'une âme puisse passer de la mort à la vie. Souvent, hein, on voit quand Paul, hein, il prêchait, hein, il servait le Seigneur, il était prêt à mourir, il avait déjà offert sa vie comme une offrande acceptable à Dieu. Les chrétiens qui partagent l'évangile, ils font une œuvre sacerdotale envers les autres. C'est un autre sacrifice hein, que nous avons le privilège d'offrir. D'autres sacrifices, hein, par exemple, les chrétiens, on le voit bon, dans le livre des Actes, mais également hein, dans Philippiens, on voit des chrétiens qui vont faire des dons à des serviteurs, à d'autres églises, pour les aider. Hein, lorsque Paul fut emprisonné à Rome, par exemple, l'église de Philippe lui envoya un don généreux hein, pour pourvoir à ses besoins. Et même en raison de leur pauvreté, ils ont même donné à Paul hein, ce qui leur était nécessaire. Ça, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Lorsque, voilà, on arrive par amour à donner de ce dont on a besoin, nous, pour aider quelqu'un d'autre dans le besoin, c'est un sacrifice qui est fort agréable à l'Éternel. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 16, il dit: N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas la quantité de ce qui est offert, c'est le geste d'amour que Dieu voit et pour lequel il prend plaisir. Alors il est vrai que les bonnes œuvres et les dons des chrétiens s'adressent aux autres, mais ils s'adressent également à Dieu lui-même, parce que Dieu, il est satisfait de telles offrandes, de tels sacrifices. Toujours dans ce chapitre 13, le verset juste avant, hein, le verset 15 dit: Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est là une des offrandes très importantes que le croyant présente à Dieu, c'est ce sacrifice de louange. Alors permettez-moi encore une petite pause ici. Quand nous venons ici au culte, si nous ne sommes pas prêts à louer le Seigneur, si nous ne sommes pas prêts à exhorter, à encourager les uns et les autres, pourquoi venons-nous? Je me demande pourquoi on a une telle hésitation même juste à prier tout simplement, à élever la voix vers le Seigneur. Ce que je remarque, c'est que souvent chaque dimanche, ce sont les mêmes qui prient. Et je trouve ça, j'admire la fidélité ici de certains, mais je me demande, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui vous empêche d'élever votre voix à l'Éternel? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ça nous dit d'intercéder les uns pour les autres. Il n'y a rien qui devrait nous retenir de pouvoir louer l'Éternel dans la prière. Cette adoration du Seigneur, c'est un acte sacerdotal. Ça fait partie de nos fonctions. Ça fait partie de ce précieux privilège que nous avons en Jésus-Christ. Alors oui, de toute évidence, les prêtres, les croyants, les chrétiens de l'Église du Nouveau Testament possèdent de nombreux sacrifices qu'ils peuvent présenter à l'Éternel. Et ils ont reçu ce privilège de comparaître devant l'Éternel, devant Dieu. Et on n'a pas besoin de se présenter les mains vides. Pourquoi? Jésus-Christ nous a donné la capacité et l'occasion d'offrir des sacrifices qui font plaisir à Dieu. Et c'est des choses que nous verrons, Dieu voulant, la prochaine fois. Parce que bien qu'il y ait ce fait que nous soyons sacrificateurs, prêtres devant Dieu, Dieu, il nous a également équipés d'une autre manière. Et nous allons aborder donc ces fameux dons spirituels hein, dont il est question dans le Nouveau Testament. Ces dons que Dieu accorde aux croyants pour accomplir ce service dans l'Église, par l'Église et même en dehors de l'Église, en ce qui concerne l'évangélisation. Mais notre sacerdoce implique, et je vais terminer avec ça, implique que nous maintenions aussi une vie qui soit conforme à la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Comme Paul, il a dit hein, en Romains chapitre 12, que d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quelque chose de logique. C'est quelque chose qui devrait couler de source. Quand on considère l'œuvre de Christ pour nous et ce qu'il nous a accordé, les privilèges, mais aussi les responsabilités qu'il nous donne, nous devrions prendre conscience de la tâche qui nous est confiée. On a mentionné aussi le fait que dans l'Ancien Testament, toute cette préparation que les Lévites devaient accomplir pour le service, cette préparation de sanctification, parce que Dieu, il a dit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, soyez saints car je suis saint. On ne peut pas en tant que chrétien négliger la poursuite de la sainteté dans notre vie. Que ce soit d'abord parce que il nous a appelés à être saints, c'est un commandement. 1 Pierre 1,15, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Ce n'est pas juste soyez saint quand vous venez à l'église, soyez saint aussi quand vous êtes à la maison, au volant, etc., au magasin, au travail, partout. Et ça peut être difficile, c'est vrai. Mais Dieu veut cela de nous. Mais cette sainteté, on va couper ça un peu en deux. Il y a d'abord la sainteté dans notre corps. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20. Il nous parle des aliments qui sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu qui détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Donc là, déjà, Paul il nous dit, votre corps, il n'est pas fait pour poursuivre vos désirs de la chair. Votre corps, il est fait pour la sainteté maintenant. Il continue et il dit, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» L'image, elle est horrible, mais elle est frappante. Et elle doit nous interpeller. Puisque je suis prêtre devant Dieu, que suis-je en train de faire avec mon corps? Est-ce que par mes actions, est-ce que je suis en train de donner vie à cette image-là? De prendre le corps du membre du corps d'une prostituée et d'attacher ça à Christ? Mais c'est horrible. Et cette image-là, c'est celle que nous devons garder à l'esprit lorsqu'il y a des tentations justement d'employer notre corps pour de mauvaises choses. Pensez à cela. Y prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur avec lui est avec lui un seul esprit. Il lui dit donc, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Et c'est là où on a ce fameux verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de ça que nous comprenons que au moment de la conversion, le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais associer ça aussi au fait que nous sommes prêtres devant Dieu, que notre corps est un temple. On a tout dans notre vie maintenant, en Christ, pour faire cette fonction de sacrificateur. Mais ça requiert que nous maintenions aussi notre corps assujetti, comme Paul le faisait. Un corps qui est employé pour la sainteté et non plus pour la débauche. Pourquoi? Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui vous appartiennent, qui appartiennent à Dieu. Pardon. Le corps. Mais il n'y a pas que le corps. Il y a aussi l'esprit, n'est-ce pas? Parce que l'être humain, ouais, il est composé d'une manière remarquable. Il y a le corps, il y a l'esprit, l'âme. Et dans Philippiens chapitre 4, c'est là aussi un verset important. Philippiens chapitre 4 et verset 8, pour nous interpeller aussi à maintenir cette sainteté dans notre esprit. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que non seulement je dois consacrer mon corps pour le service du Seigneur, mais mon esprit aussi, mes pensées aussi. Tout ce qui est honorable, juste, vrai, pur, tout ce qui est aimable, C'est ça qui doit faire l'objet de nos pensées. Et donc cette sainteté à laquelle nous sommes appelés dans notre vie, dans notre corps, dans nos pensées, dans notre esprit, elle n'est pas requise pour maintenir notre salut. Hein, ça, il faut bien comprendre. Mais cette sainteté, quelque part, elle est requise pour glorifier Dieu. Est-ce que je peux glorifier Dieu lorsque j'ai des pensées qui ne reflètent pas sa personne? Est-ce que je peux glorifier Dieu lorsque je vais employer mon corps pour des actes que Dieu réprouve? Et c'est pour cela que voilà, nous sommes sacrificateurs et nous sommes appelés à la sainteté. Parce que Dieu est saint et veut que nous soyons saints. Pour que nous puissions remplir aussi ces fonctions de la meilleure façon possible, les uns pour les autres, pour la gloire de Dieu. Donc faisons donc emploi de ce sacerdoce pour la gloire de Dieu, pour le bien de nos frères et sœurs en Christ. Et en plus de ceci, Dieu voulant, nous verrons, comme je l'ai dit la prochaine fois, que par l'Esprit Saint, Dieu nous a équipés pour le service avec des dons particuliers, des dons spirituels qui nous aident pour le service du Seigneur dans l'Église.